BW. Le monde à votre portée.
Et je pense qu'il y a d'abord une première condition qui est celle de pouvoir rétablir un peu l'autorité de l'État dans cette partie du pays. C'est que cette situation d'insécurité, elle est consécutive quand même à plusieurs, la présence de plusieurs groupes armés et qui n'ont jamais été désintégrés, bien qu'ils n'ont jamais été mis hors d'état de nuire. Et ces groupes restent des fois actifs et en étant actifs, continuent de semer la désolation du fait que l'État congolais n'existe pas dans cette partie du pays. Ensuite, il y a la question de l'armée congolaise elle-même, qui est en charge normalement de pouvoir sécuriser les populations. Mais il faut constater que cette armée congolaise n'est pas du tout à la hauteur de la tâche que l'on attend d'elle, et de ce fait que n'arrive pas à sécuriser donc les populations. Mais à part ces deux éléments, il est quand même important de pouvoir mettre en lien aussi avec les pays étrangers, puisque la plupart de ces violences ont toujours des liens avec des pays limitrophes.
Donc vous voulez dire qu'un pays comme le Rwanda continue de tirer les ficelles pour attiser les violences dans l'est de la RDC?
Ben, de toute façon, ce qu'on appelle le faux prétexte sécuritaire pour le Rwanda est toujours d'actualité, c'est-à-dire justifier la sécurité au Congo pour pouvoir maintenir une chape de sécurité au sein du Rwanda, au sein de l'ordre des frontières rwandaises dans le Rwanda. Et donc, le fait d'avoir une insécurité à l'est contribue à consolider le pouvoir aussi bien du côté rwandais que du côté ougandais, voire même du côté burundais. Et cela justifie en fait la politique sécuritaire que ces pays appliquent en interne, en justifiant effectivement la présence de ces groupes étrangers.
Plusieurs sources que nous avons jointes à Kinshasa accusent, sans les nommer, certains députés, certains acteurs politiques de l'est de la RDC d'avoir intérêt à ce que ces violences persistent.
Il y a toujours cette dimension-là, ce qu'on appelle un contexte national, c'est-à-dire que l'on ne peut pas analyser ces conflits sans prendre en considération effectivement cette donne. C'est-à-dire que la donne nationale, le positionnement des acteurs politiques dépend au fait du degré de violence qui se vit au niveau de leur territoire, au niveau de leur circonscription. Pour toute une série de politiciens qui sont à mal le positionnement, l'utilisation de la violence devient un moyen de pouvoir accéder au pouvoir, de pouvoir accéder à des postes rétributeurs à Kinshasa. Effectivement, c'est un élément pour lequel il est important de prendre en considération.
Comment est-ce que vous expliquez, Bob Kabamba, qu'en dépit de la forte présence de la MONUSCO et des FARDC, on n'arrive pas à mettre hors d'état de nuire les ADF Nalu?
Donc, il y a déjà le problème de la MONUSCO dont les termes d'engagement sont assez compliqués. C'est-à-dire que les troupes qui sont déployées dans cette partie de la RDC ne sont pas des troupes nécessairement combattantes. Et l'engagement militaire de ces troupes dépend généralement, quand on lit les termes d'engagement des pays donateurs de ces troupes, est conditionné toujours par l'accord du pays donateur. Ce qui fait que beaucoup de pays n'autorisent pas nécessairement leurs troupes présentes en RDC de pouvoir participer de manière offensive contre certains groupes armés.
Oui, mais la brigade d'intervention rapide a un mandat précis, une mission précise.
Oui, la brigade d'intervention rapide a déjà un mandat très précis, mais ce mandat est aussi conditionné toujours par l'accord de la Tanzanie et aussi par l'accord de l'Afrique du Sud, depuis que une bonne partie de ces troupes avaient été victimes de guet-apens tendus justement par ces rebelles, où on a comptabilisé quand même plusieurs morts dans le rang de cette brigade d'intervention. Et à partir de ce moment-là, les pays donateurs, eux aussi, ont essayé de mettre donc des conditionnalités quand par l'intervention de leurs troupes sur le terrain.
Beaucoup disent aussi que c'est à cause des richesses minières de la RDC que ces conflits ou que ces violences perdurent.
On ne peut pas vraiment affirmer que c'est à cause de ressources minières, pour la bonne et simple raison que les ressources minières que l'on trouve maintenant dans cette partie de la RDC, c'est-à-dire dans le Nord Kivu essentiellement, ce sont les ressources minières qui nécessitent quand même des investissements assez lourds pour pouvoir être exploitées, notamment pour le cas du pétrole que l'on trouve dans le lac Albert, donc à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda, le Congo, mais aussi le cas du coltan que l'on trouve essentiellement dans les zones beaucoup plus au sud de la province du Nord Kivu, où on a effectivement la présence du coltan et du niobium. Et c'est l'exploitation de ces ressources nécessite quand même des investissements assez lourds, ce qui veut dire aussi nécessite d'avoir quand même un minimum d'organisation pour permettre à ce que ces ressources soient exploitées. Et donc, on ne peut pas véritablement mettre cette violence sous le compte des ressources naturelles.
Cette semaine, Bob Kabamba, la MONUSCO va fêter ses 20 ans, hein, même si au départ c'était la MONUC. Si on vous demandait de dresser un bilan, qu'est-ce que vous répondrez?
Il y a deux points de vue que l'on peut, on doit absolument prendre en considération. Dans un premier temps, il y a le fait quand même que la MONUSCO, la MONUC, dans un premier temps, avait contribué à ce que l'on puisse arriver à stabiliser le Congo. Je dois rappeler quand même que le Congo a été divisé en plusieurs entités pendant plusieurs années. Et que il a fallu attendre vraiment l'arrivée de la MONUSCO, de la MONUC, pour véritablement avoir un État unifié. Par ailleurs aussi, il faut souligner l'apport de la MONUC et de la MONUSCO dans l'organisation en fait des élections qui ont eu lieu en 2006 et qui sont la base en fait de toutes les élections et la base donc de tentatives de démocratisation que l'on constate actuellement sur dans le pays. Mais par ailleurs, il y a quand même la question sécuritaire où la MONUSCO, on peut dire, n'a pas vraiment réussi sa mission, c'est-à-dire normalement arriver à sécuriser et à protéger les populations. Sous cet aspect-là, on doit vraiment souligner qu'il s'agit véritablement d'un échec.
Si on vous demandait, en résumé, Bob Kabamba, comment faire pour mettre un terme à ce cycle infernal de violence dans l'est de la RDC, qu'est-ce que vous répondrez?
Combiner des actions entre les pays limitrophes, renforcer l'armée congolaise et l'état des droits, et aussi impliquer quand même la communauté internationale de beaucoup plus active, de manière beaucoup plus forte sur le terrain, notamment en envoyant, comme on a eu le cas pour l'opération Artemis à Bounia, qui a permis quand même de mettre fin à des violences qui existaient dans cette partie du pays dans les années 90.